Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Rejoignez, nous sommes à Agadir au deuxième sommet Climate Change qui réunit plus de 5000 personnes venues de 80 pays. Représentants de villes, d'associations ou d'entreprises, ils sont tous engagés dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement comme clé du développement. Dans les couloirs, il y a beaucoup de jeunes, c'est frappant, dont ceux qui font partie de la délégation de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ils participent au sommet Climate Change dans le cadre de l'initiative de la jeunesse pour l'eau et le climat. Ils sont venus du Bénin, d'Haïti, de Tunisie, du Canada et du Cameroun pour partager leur engagement. Bonjour Julio Adolibé.
Bonjour.
Vous travaillez au sein de l'ONG béninoise AMEM pour sensibiliser les enfants aux enjeux de l'eau et en partant du principe que les enfants peuvent éduquer les parents.
Oui, ça va gêner un peu les parents de voir que ce sont les enfants qui puissent les éduquer et ça va les rendre mal à l'aise par rapport à leur mauvais comportement.
Alors, comportement sur quoi ?
Par rapport à la protection de l'environnement, à la gestion de l'eau, ce qui nous a amené à mettre en place ce projet en collaboration avec des partenaires de l'Occident. Et ça consiste à illustrer un peu le point de vue des enfants en termes de notion de la thématique environnement et eau. Et de ces illustrations, on édite des documents qui nous permettent maintenant d'aller vers d'autres écoliers pour pouvoir partager cette expérience avec les enfants.
Alors qu'est-ce que vous leur dites par exemple aux enfants ?
Alors, on prend par exemple la notion d'hygiène et d'assainissement, les comportements à avoir à la maison. Faut se laver les mains. En termes de gestion de l'eau, comment gérer l'eau, ne pas gaspiller l'eau, parce que tout le monde n'a pas la chance comme eux d'avoir accès à l'eau comme eux ils l'ont. Et après cette sensibilisation, ils vont maintenant nous illustrer un peu ce qu'ils comprennent un peu de ces thématiques. Et de ça, maintenant, nous, on les prend, on édite des documents. On ne touche pas les illustrations des enfants. On les laisse telles quelles pour que ça puisse travailler un peu parce que le langage entre enfants, c'est plus compréhensible que les gros mots que nous, adultes, on va utiliser pour leur expliquer un phénomène. Maintenant, ces enfants, une fois sensibilisés, à eux maintenant d'impacter leurs parents à la maison. Et on a eu à travailler, à faire d'abord une phase pilote dans les départements du Mono et de l'Ouémé du Plateau aussi au Bénin. Maintenant, on va généraliser cette expérience dans tout le pays l'année prochaine.
Et vous sensibilisez les enfants aussi à anticiper les problématiques comme en ce moment, par exemple, les inondations auxquelles le Bénin n'échappe pas, comme une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest.
Et ça, cela grâce aussi au SAP, qui est le système d'alerte précoce que le Bénin a déjà mis en place depuis les catastrophes qu'on a connues en 2010. Donc le SAP, ce projet travaille avec les ONG, un réseau d'ONG dont on fait partie. Et grâce à notre projet, on intervient aussi sur la prévention des risques. Et comment, et puis les comportements aussi à avoir en thème lorsque le risque est là, comment se comporter. Donc c'est comme ça qu'on intervient au niveau de notre ONG.
Tant pour les inondations que pour les sécheresses d'ailleurs.
Oui, les deux extrêmes climatiques.
Et vous avez déjà du retour là-dessus, vous savez si c'est efficace ?
Oui, c'est efficace parce que il y a de petits comités au niveau des villages qui permettent de faire l'évaluation de ce qu'on fait sur le terrain. Et si le retour n'était pas bon, je ne crois pas que les partenaires vont continuer par nous aider dans la subvention de ces activités.
Oui, ça c'est sûr. Bonjour Myriam Benzakour.
Bonjour.
Alors vous êtes venue d'un peu moins loin, la Tunisie, c'est pas très loin du Maroc. Oui. Vous êtes chargée de programme adjointe au Partenariat mondial de l'eau pour la Méditerranée, donc en Tunisie. Alors vous adressez aux plus grands, aux jeunes adultes, ceux qui ont fini leurs études ou qui sont en cours d'études.
Si vous pouvez me laisser dire quelques mots sur mon organisation.
Allez-y.
Le Global Water Partnership, c'est un réseau mondial qui accompagne les pays pour faire progresser la gouvernance et la gestion des ressources en eau en vue d'un développement durable. Et l'organisation, elle est représentée au niveau de 13 régions dans la Méditerranée, et d'où notre appellation, le GWPMED. On travaille sur plusieurs thématiques dans la gouvernance, la gestion de la demande, le changement climatique, et on aborde aussi des thématiques transversales comme la jeunesse. Et pour la jeunesse, donc, on a travaillé sur plusieurs activités et actions, des actions de sensibilisation et de renforcement de capacités. Et maintenant, on va s'attaquer à la migration et à l'emploi.
Alors, renforcement de capacité, pourquoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous expliquez à ces jeunes qui sont plutôt des jeunes adultes, hein ? Vous me disiez, vous intéressez plutôt aux, quoi, 18-35 ans ?
Oui, on s'adresse principalement aux diplômés. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a travaillé avec un noyau de jeunes. Donc, on a fait une consultation nationale pour comprendre les enjeux et les défis auxquels les jeunes Tunisiens aujourd'hui font face. Et parmi ces défis, je peux citer que les décideurs aujourd'hui, malheureusement, ne font pas très confiance aux jeunes. Et que même ces jeunes, eux-mêmes, ils ne disposent pas des connaissances nécessaires pour intégrer le secteur de l'eau. Donc, ce qu'on a fait, donc on a commencé par organiser des sessions de formation principalement sur la ressource en eau partout dans le monde et en particulier en Tunisie et sur l'adaptation au changement climatique. Par la suite, on a travaillé avec eux sur l'élaboration d'un plan d'action avec une série d'activités que les jeunes eux-mêmes devront mettre en place.
Comme quoi, par exemple ?
Par exemple, on a travaillé sur une campagne de sensibilisation appelée OVI. Donc, c'était une campagne nationale et plusieurs ONG étaient impliquées. Et chaque ONG devait former des jeunes, des écoliers, je vais dire, dans des écoles tunisiennes sur l'économie et la pénurie de l'eau en Tunisie. Et je suis contente de dire que grâce à cette campagne, on a réussi à sensibiliser environ 800 écoliers, ce qui n'est pas mal du tout.
Oui, félicitations.
Oui, merci.
Et vous disiez, vous allez aussi mettre en place un programme en lien avec les migrations. Alors, quel lien vous faites entre eau, migration, jeunes ?
Les jeunes Tunisiens, ils font face à deux défis majeurs, donc celui de l'emploi et de la migration. Environ 35% des jeunes Tunisiens sont au chômage, ce qui est énorme. Donc nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser tout cet acquis pour répondre à d'autres défis. Donc là, on est en train de travailler sur l'identification d'actions pour réduire la migration, tout en aidant ces jeunes à accéder aux opportunités d'emploi dans le secteur. Et on pense même à les aider à monter leur propre start-up liée à l'eau et à l'assainissement.
Bah écoutez, on va suivre ce projet, hein, vous nous tiendrez au courant de son évolution. À vos côtés, Nawafa Laghelit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chez vous ici, puisque vous êtes marocain, vous travaillez à Rabat pour l'association Les Petits Débrouillards. Alors, Les Petits Débrouillards, c'est une association, on en parle de temps en temps dans cette émission, qui aiguise, on va dire, la curiosité des 7-14 ans sur tous les enjeux scientifiques pour apprendre aux jeunes à comprendre davantage leur environnement. Et vous avez de nombreux programmes en lien avec l'environnement. Par exemple, cet été, vous avez fait de la sensibilisation sur les plages.
C'est ça. Donc, juste pour parler un peu brièvement de l'association marocaine des petits débrouillards, on a comme mission, c'est de divulguer la culture scientifique, technique et surtout environnementale pour tous. Donc, c'est un mouvement qui a commencé au Québec notamment, il y a de cela une trentaine d'années, qui est passé en France et maintenant qui est passé, il y a de cela, on va dire, une quinzaine d'années au Maroc. Donc, par rapport à nos projets qu'on mène, notamment au projet Plage Propre qu'on a effectué cette année, c'était l'édition 2017. On est à la quatrième édition de ce projet-là. Donc, on va dire que c'est des centres d'animation dans 5 plages ici au Maroc, on va dire au nord du Maroc. Et on a, pour chaque année, on essaye de choisir une thématique. Notamment cette année, c'était les énergies et le littoral. Donc, sur ces animations-là, on essaye un peu de travailler avec les enfants sur des ateliers scientifiques. Ça peut aussi être des ateliers artistiques, parce que c'est l'été, c'est la plage, les enfants...
Il faut apprendre en s'amusant.
Oui, c'est ça. Donc sur les ateliers scientifiques, comme j'avais dit, on essaie d'un peu de vulgariser tous les phénomènes et surtout de rendre les enfants un peu plus curieux par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux. Et vu que j'ai vu passer devant moi les 4 éditions, je pense que c'est un projet très très important. C'est parce que quand on voit les gens qui reviennent chaque année et tout ça, ça nous pousse aussi à changer d'activité, à un peu chercher un peu plus, à changer de thématique surtout.
Et il y a un vrai intérêt.
Oui, c'est ça.
Et vous avez créé aussi, alors là, pas seulement le Maroc, mais aussi avec l'Allemagne et la France, des colonies changement climatique. Expliquez-nous ça.
C'est ça. C'est notamment grâce à notre partenaire l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Donc, on essaye de financer des colonies de vacances trilatéral entre Marocains, Français et Allemands. Et à chaque fois, ça se déroule dans un pays de ces trois pays-là. Donc on essaie, c'est une colonie, on va dire, normale comme toutes les autres colonies. La spécificité, c'est qu'on ajoute des ateliers scientifiques et surtout qui parlent de, notamment de la problématique des changements climatiques. Et c'est souvent avec des adolescents. Et on essaie de travailler avec eux sur cette thématique-là. Et après, c'est à eux de prendre le flambeau et d'essayer d'un peu plus exercer ou bien divulguer ces thématiques-là au plus de leurs proches et tout ça. Africa, oh, Africa, oui, maman. Maman, des variations du Tangana, organisation unité africaine, d'Anyouara Polo.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Agadir au deuxième sommet Climate Change qui réunit plus de 5000 personnes de la société civile, toutes impliquées dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement. Il y a beaucoup de jeunes dans ce sommet, dont ceux qui nous entourent. Vous en avez déjà entendu certains, je vais continuer à vous en présenter d'autres. Bonjour Jimmy Finlon.
Bonjour.
Vous êtes venu d'Haïti, donc vous avez fait un bon trajet. Vous terminez vos études de médecine et en parallèle, même si vous avez peu de moyens, à Haïti c'est quand même difficile et donc très courageux de votre part, vous sensibilisez comme vous le pouvez les jeunes Haïtiens à la protection de l'environnement et au changement climatique. Alors qu'est-ce que vous arrivez à faire sur le terrain?
À la base, c'est pas facile parce que les jeunes ne sont pas vraiment impliqués et ne sont pas vraiment intéressés pour le changement climatique. D'abord, ils doivent connaître et le changement climatique parce qu'ils le vivent. Il faut que les jeunes soient en mesure de connaître le changement climatique et savoir comment est-ce qu'ils le subissent.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous organiser des petits forums, vous convoquez les jeunes dans des salles, vous leur donnez rendez-vous, mais il faut réussir à les faire venir, c'est pas simple.
On a pensé d'abord à consolider les moyens. Il faut d'abord les ressources, mettre les ressources en place et après et sélectionner les jeunes. Il nous faut la prochaine génération de leaders. Et le projet se base sur trois axes. La jeunesse, l'adaptation et l'innovation. Il faut d'abord trouver des jeunes qui sont intéressés par l'environnement, le changement climatique et tout ça. Et ensuite, ils doivent avoir des idées. Et ensuite, on les canalise. Et chaque jeune vient avec une idée et on fait des
Vous
séminaires.
Vous les aidez en fait oui, à aboutir sur, oui. à leur projet. Alors par exemple, qu'est-ce qui est né récemment comme idée que vous avez pu accompagner?
Récemment, on a eu l'éco-diving. C'est un projet de plongée sous-marine. Il y a des jeunes du sud du pays qui vont apprendre à découvrir l'écosystème sous-marin haïtien et comment les protéger. Ensuite, une sensibilisation.
Oui, ça, par exemple, c'est un bel exemple de réussite. Et pour les changements climatiques, vous disiez que c'est compliqué d'expliquer ça. Nous aussi, on a du mal à la radio, hein, je peux vous le dire. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes haïtiens que vous rencontrez pour leur expliquer simplement?
Actuellement, on est en plein dans la saison et cyclonique. Maintenant, les jeunes doivent savoir pourquoi est-ce que l'intensité des cyclones augmente. Pourquoi est-ce que les cyclones sont beaucoup plus dévastateurs qu'avant.
Alors, expliquez-nous en quelques mots, puisque là, les Haïtiens vous entendent sur RFI.
Alors, à cause du changement climatique, le nombre de cyclones n'augmente pas, mais ils augmentent plutôt en intensité. Donc, les cyclones qui passent sont des phénomènes extraordinaires et ils passent avec beaucoup plus, ils font beaucoup plus de ravages. Et ils doivent s'adapter et vivre avec. Et avec la montée des eaux, on a une recrudescence de certaines maladies liées à l'eau. On a le paludisme et le choléra aussi, parce que récemment, il y a une épidémie de choléra.
Oui, donc vous alliez comme ça vos études de médecine, donc votre vocation de médecin avec la préservation de l'environnement, parce que pour vous, les deux sont liés, c'est important.
Il faut, à la base, il fallait trouver un lien entre médecine, parce que ça prend tout mon temps, et environnement et changement climatique. Et je l'ai trouvé.
Félicitations. On entend en tout cas votre motivation. À vos côtés, Ludmila Hammer, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes étudiante en master de gestion de l'eau à Montréal. Alors, vous n'êtes pas très très loin finalement, quelques kilomètres au-dessus d'Haïti. Vous faites de la recherche sur la question du partage de l'eau, donc autre contexte, autre implication. Alors, cette recherche, en gros, elle consiste en quoi?
Oui, voilà, comparativement à mes camarades, en fait, je suis encore aux études, donc du côté académique, et je fais surtout de la recherche sur le partage de l'eau entre les États, entre différentes communautés, entre les agriculteurs et les entreprises, par exemple. Donc, mes dernières recherches portent là-dessus. Comme je suis encore en maîtrise, je passe mon temps à faire des lectures sur le sujet. Même pendant le sommet de Agadir, voilà, j'ai des articles à taper sur est-ce que les méthodes de coopération sont efficaces et la critique aussi de ces méthodes-là. Est-ce que les gens qui ont moins de pouvoir, qui n'ont pas accès, par exemple, aux médias ou à l'éducation, est-ce qu'ils ont leur place dans la participation du public? Est-ce qu'ils ont leur place dans les conférences? Est-ce qu'ils ont leur place dans les sommets?
Alors ici, donc, à Climate Chance, on aurait tendance à dire oui.
Oui, voilà.
Mais ce n'est pas le cas partout.
Ce n'est pas nécessairement le cas partout et je trouve ça intéressant comme ça. Sommet, vu que c'est non étatique, c'est des acteurs non étatiques, donc c'est les citoyens qui s'engagent, qui viennent discuter, qui viennent débattre, donc c'est intéressant d'avoir des opinions différentes.
Et vous allez aussi sur le terrain, vous avez passé 3 mois à Madagascar.
Oui, voilà, donc on a l'opportunité de faire des stages, des recherches et tout ça, et un des stages dont j'ai eu accès, c'est faire 3 mois à Madagascar avec un organisme qui s'appelle Québec sans frontières. Et ça, c'était pas relié à l'eau, mais c'était relié à l'environnement. Donc, c'était encore une fois le partage de connaissances avec les enfants sur qu'est-ce que le cycle de l'eau, qu'est-ce que les changements climatiques. Encore une fois, ça c'était le volet avec les enfants, mais on avait un volet pour les adultes. Donc, on parlait des nouvelles technologies. Et bien évidemment, encore une fois, comme je suis dans la critique un peu de tout ça, au retour, j'ai fait la rédaction d'un article qui parle des bons côtés et des mauvais côtés de ce genre de stage. C'est-à-dire que, oui, il y a des bons côtés pour les Québécois, pour les Canadiens qui reviennent au pays, qui sont remplis d'ouverture d'esprit, de nouvelles cultures, ils sont remplis d'idées. Et d'ailleurs, on doit partager ces idées et notre expérience dans les écoles. Mais il y a aussi des côtés négatifs où on apporte une certaine somme d'argent qui se peut être utilisée pour ce projet. Et puis, est-ce qu'on ne participe pas d'une manière ou d'une autre à une forme de corruption? On est proche de certains chefs de région qu'on a dû rencontrer. Donc, il y a des critiques à avoir par rapport à, même à ce genre de stage.
Vous ne vous êtes pas laissé emballer par l'enthousiasme. Vous gardez toujours un esprit critique. Vous avez bien raison. Alors, on aurait pu inviter plein de jeunes, hein, je vous le disais, il y en a beaucoup dans les couloirs du Climate Chance, mais on a dû se limiter à cause de la durée de l'émission. Donc, je vous présente la dernière jeune qui est avec nous, Nelly Diane Alemfak et Fozo. Bonjour.
Bonjour, Anne-Cécile.
Alors, on se connaît, nous, en fait, parce qu'on s'était vu en 2013 au Togo pour les 10 ans des jeunes volontaires pour l'environnement, cette association fondée par Sena Aluka au Togo et qui a essaimé dans toute l'Afrique. On peut dire il y a plein de bébés jeunes volontaires pour l'environnement. Vous en êtes une, mais maintenant, vous êtes une jeune fille et bien aboutie, puisque 4 ans plus tard, la passion de la protection de l'environnement est toujours là. Et aujourd'hui, vous travaillez pour la plateforme internationale des réseaux jeunesse francophone et vous êtes membre de la coalition Action 2015. Et à Yaoundé, vous travaillez pour sensibiliser la population aux objectifs du développement durable. Alors, on va profiter de votre pédagogie. Rappelez-nous, en quelques mots, les objectifs du développement durable, ce que c'est et comment les citoyens peuvent s'impliquer.
D'accord. Les objectifs du développement durable, c'est un agenda défini pour 15 ans. Ça a été défini en septembre dernier. Donc, ça veut dire qu'on va fêter les 2 ans des objectifs de développement durable. C'est un agenda qui comporte 17 objectifs définis sur 5 paliers. Le peuple, la planète, la prospérité, le partenariat, mais également la transversalité de tous ces thèmes. Donc pour nous, c'est l'opportunité pour les populations de redéfinir leur cadre de développement qui puisse répondre facilement aux attentes de lutte contre la pauvreté, protection de l'environnement, mais également les objectifs de la paix.
Oui, alors tout ça, en théorie, on comprend bien, mais quand on est citoyen, comment est-ce qu'on peut se sentir concerné et faire des choses pour ces objectifs qui ont été définis par les grands de l'ONU, assez loin du quotidien finalement.
Pour le citoyen, en fait, c'est l'opportunité de participer au développement. Déjà, les objectifs de développement durable, tout le monde est censé savoir. Et maintenant, notre travail consiste à informer, à sensibiliser et à former les populations sur c'est quoi l'agenda de développement, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer et comment ils peuvent tenir les gouvernements en alerte, à savoir respecter leurs engagements. Donc, nous formons ce qu'on appelle les ambassadeurs ODD au niveau local. Ces ambassadeurs conforment à comprendre les 17 objectifs de développement durable, les cibles et les indicateurs. Et à travers les programmes que nous mettons en place, ça permet de se rapprocher des collectivités territoriales décentralisées pour collaborer avec eux afin qu'on porte les initiatives au niveau national. Pour venir au niveau central, expliquer en fait à ceux qui sont chargés de suivre le processus au niveau national que voilà ce qu'on aspire en tant que priorité dans notre agenda au niveau local et faites l'effort de tenir ces engagements pour qu'on ait un impact au niveau local.
En fait, vous formez des citoyens sentinelles qui doivent régulièrement aller piquer le derrière, si je puis dire, de leurs élus en disant « n'oubliez pas ces objectifs,
exactement.
Vous vous y êtes engagés, c'est important de les respecter ».
Exactement. Donc en fait, c'est le cadre en fait, qui définit comment les citoyens peuvent être impliqués dans l'action publique et également comment est-ce que les gouvernements peuvent interagir avec ces populations. Donc ces ambassadeurs sont vraiment très équipés pour réclamer cette position-là.
Alors nous avons bien entendu à travers vos différents témoignages, votre implication, votre énergie. J'aimerais, avant de terminer cette émission, faire un tour de table pour savoir d'où vous vient votre motivation à chacun et à chacune. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous impliquer comme ça? On va démarrer avec vous, Julio.
Moi, à mon niveau, c'est... pendant l'une de mes vacances, où j'étais dans une région où je voyais des enfants, c'était en 2010-2011, où je voyais des enfants, des jeunes comme moi, faire des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Moi qui suis citadin de Griffe, qui ai quitté Cotonou, je pouvais me laver 10 à 100 fois par jour si je le veux. Mais ces jeunes avaient vraiment un problème à avoir accès à l'eau. Et ça a fait un clic dans ma tête, ce qui m'a amené pour ma maîtrise à faire des recherches sur l'approvisionnement en eau, le lien entre l'approvisionnement en eau et puis l'évolution démographique et l'atteinte des OMD en ce moment.
Merci. Myriam Benzakour.
Moi, personnellement, j'ai eu de la chance parce que mon organisation m'a fait confiance et m'a confié l'agenda jeunesse pour la Tunisie. Et ce qui me motive encore plus aujourd'hui, c'est que mon pays, la Tunisie, gorge de jeunes actifs, ambitieux, désireux, qui rêvent en fait, d'une Tunisie meilleure. Et il ne faut pas oublier que ces jeunes, ils étaient derrière la révolution tunisienne, criant emploi, liberté, dignité. Et comme on ne peut rien faire sans volonté politique, heureusement que pour nous, notre gouvernement est conscient des enjeux liés au développement durable, emploi, migration. Et c'est clairement indiqué même dans notre nouvelle constitution. Et donc, voilà.
Merci. Nawafal.
Moi, comme motivation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on essaye de créer et de développer l'esprit critique chez les enfants. La moindre des choses, c'est d'en avoir un aussi. Et c'est d'avoir un esprit critique par rapport à tout ce qui m'entoure et tout ça. Et c'est ça, je pense, ma motivation. À chaque fois, quand on va rencontrer des jeunes, ils vont dire « les responsables, ils n'ont rien fait, les responsables, ils n'ont rien fait ». Mais on est des jeunes, il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience que c'est la plus grande force. Et si on ne se bouge pas, il n'y aura personne qui le fera à notre place.
Merci. Jimmy ?
À mon début, la motivation était... l'amour du pays, la fibre patriotique qui m'animait. Mais avec le temps, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'espoir pour les jeunes.
Et
on n'investit pas dans les jeunes. Et puis, à mon arrivée à l'aéroport lundi dernier, j'ai vu un jeune comme moi qui partait pour le Chili. Maintenant, c'est la nouvelle tendance. Les jeunes partent pour le Chili pour chercher une vie meilleure. Et puis, je me suis dit, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic? Pourquoi moi-même, je suis en train d'aider mon pays? Je pars pour aider mon pays. Lui-même, il part définitivement. Alors, on m'a dit que pour progresser, il faut quitter le pays, il faut laisser Haïti. Il n'y a pas d'espoir pour Haïti. Et puis je me suis dit, moi-même, je veux rester, je veux me battre.
Bravo. Nelly, la Camerounaise, vous, votre motivation?
Ma motivation date depuis mon enfance. J'ai grandi dans une zone forestière avec plein de ressources forestières et la localité était vraiment pauvre. Pas d'accès à des routes n'était pas bonne. Les populations vivaient dans l'extrême pauvreté. Et je me suis demandé comment capitaliser cette ressource et en termes de développement pour que la zone émerge. Je me suis posé des questions et je me suis rapprochée de plusieurs recherches et documents. J'ai enfin compris qu'en fait, il y a plein de richesses autour de la zone et les populations ne bénéficient pas. Comment faire pour que ces populations bénéficient ici. C'est là que je me suis intéressée à la question des forêts et plus tard à la question des changements climatiques et de la gouvernance même autour de ces ressources. Et c'est pour ça que je me retrouve également maintenant dans la participation des jeunes, parce qu'à un moment donné, il fallait bien participer pour pouvoir expliquer cette idée que voilà pourquoi est-ce que les populations ne profitent pas de ces ressources. C'est en ce moment que je me retrouve dans cet élan qui m'a conduit, en fait, toute ma carrière déjà est bâtie dessus.
Ludmila, chercheuse québécoise, alors, qu'est-ce qui vous motive, vous ?
Je pense que j'ai un grand intérêt pour les questions environnementales parce que c'est très multidisciplinaire. Donc, on retrouve souvent à la même table des économistes, des profs, des citoyens, des gens de toutes sortes, des anthropologues, des sociologues. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse énormément pour ces raisons-là. Mais bon, c'est sûr que j'ai grandi au Québec, mais je suis quand même née en Algérie, donc... Alger à côté de l'eau, donc c'est un sujet qui m'interpelle énormément. Et je dois avouer qu'un de mes films préférés, c'est La source des femmes, donc la relation entre l'eau, certaines communautés rurales et la place de la femme dans tout ça, donc voilà, toutes sortes d'intérêts.
Et bien, on a bien entendu vos différentes motivations, en tout cas elle est bien là. Merci pour cet enthousiasme, merci d'avoir participé à cette émission. Vos coordonnées, comme je le disais, sont sur la page de l'émission, donc comme ça il y aura peut-être une suite après cette diffusion. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.